Vous êtes sur RTL.
Merci, c'était super.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Un peu de sourire, effectivement, on en a besoin dans cette actualité qui est parfois rude. 12h30 et 14h30, 2h d'infos, de débats et d'opinions avec les auditeurs. Et tous les jours, jusqu'à 13h, c'est avec Amandine. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, la levée du pass sanitaire en discussion à l'Élysée. Le plan blanc déclenché à Mulhouse, faute de soignants vaccinés. Puis près de Rouen, le décès d'un enfant de 5 ans percuté par une voiture. L'automobiliste a pris la fuite.
Après le journal, deux sujets, deux débats. Le pass sanitaire d'abord et on vous dira pourquoi les élus locaux plaident pour un maintien des mesures. Et puis la campagne présidentielle, cette question à 200 jours du premier tour. Assiste-t-on à une radicalisation du discours, des discours? On sera notamment avec Jean-Yves Camus, le co-président de l'Observatoire des radicalités politique.
Notre question du jour sur RTL.fr, le pass sanitaire, justement, est-ce le bon moment pour alléger les contraintes? Vous dites non à 61%, non massif, hein, oui à 31%. La météo, c'est avec vous, Peggy Broche, bonjour.
Bonjour Amandine.
Et grand soleil pour tout le monde, ça fait du bien de le dire.
Eh oui, ça fait du bien, et ça fait du bien de le vivre, surtout en ce premier jour d'automne. Allez, on a juste un petit voile à signaler au nord de la Seine, pas grand-chose, quelques nuages qui se développent sur les Pyrénées. Et côté température, ça se réchauffe cet après-midi, ça aussi, ça va faire du bien. De 20 à 23 au nord, 22 à 25 au sud, jusqu'à 27 près de la Méditerranée.
Merci Peggy, à tout à l'heure, 13h.
RTL Midi.
Et pour commencer, direction les Lilas en Seine-Saint-Denis, au lendemain de la mort d'un adolescent de 16 ans, poignardé à la poitrine, la famille du jeune homme prend la parole sur RTL. Ousmane Diaïté est l'oncle d'Ibrahima.
Ibrahima est parti à la fleur de l'âge. Il avait tout son avenir devant lui. On sait qu'Ibrahima était quelqu'un de droit, de juste. Il n'a jamais trempé dans quoi que ce soit. Ibrahima ne connaissait que l'école, le foot, la maison. Voilà, il est parti gratuitement. Gratuitement. Il a été au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc aujourd'hui, nous, on se trouve dans un deuil qui est très lourd. On pardonne à la personne qui a fait cet acte parce que quand, à 17 ans, on fait un acte aussi horrible, on ne peut pas dire que c'était une personne mature. On se pose la question même à savoir s'il sait ce qu'il a fait. Parce qu'effectivement, il a détruit deux familles. Il a profondément blessé notre famille. Mais sa famille à lui-même doit être complètement décimée.
Et il a détruit deux familles. Voilà ce que dit l'oncle d'Ibrahima, 16 ans, tué lundi soir au Lila. Un document RTL signé Aurélia Valarié, le jeune homme de 17 ans justement, soupçonné d'avoir porté les coups. Et lui, toujours en garde à vue ce midi, il devrait être présenté à un juge dans les prochaines heures. Nouveau conseil de défense sanitaire ce matin. On a beaucoup parlé ces derniers jours, à commencer par Emmanuel Macron, d'un possible assouplissement des mesures de restriction. Allons voir ce qu'il en est. William Galibert, bonjour. Vous êtes sur place à l'Élysée pour RTL. Alors, qu'est-ce qui se dessine? Est-ce que les choses se précisent?
Eh bien oui, Amandine, ça bouge, ça va bouger. Il va y avoir des annonces faites ici à l'Élysée par le porte-parole du gouvernement d'ici une heure environ. Alors malheureusement, pour l'instant, je peux seulement vous dire avec certitude de quoi on a parlé ce matin pendant ce conseil de défense. La fin du masque obligatoire dans les écoles primaires. Oui, c'est une piste sérieuse. Faut-il encore fermer des classes dès le premier cas de Covid ou bien assouplir les choses? Là aussi, la question était sur la table, tout comme l'idée d'un allègement de l'utilisation du pass sanitaire dans les départements où le virus circule très peu. Mais qu'est-ce qui sera retenu au final et surtout quand ces allègements pourront être mis en place? On ne ressent pas de forte pression de l'opinion publique pour aller vite, me confie un conseiller, mais on veut aussi tenir les engagements du président de la République. Allez, encore un peu de patience, verdict avant 14h.
Merci beaucoup William. William Galibert en direct de l'Élysée pour RTL.
Et RTL a mené l'enquête auprès des élus locaux sur les 41 départements actuellement classés en vert. Un quart seulement des présidents se disent favorables à un assouplissement. Pourquoi? Eh bien, on en parlera à 12h40. Ce sera le premier débat d'RTL midi.
Eux, au contraire, plaident pour un allègement des mesures. Trois semaines après la rentrée scolaire, la plupart des clubs de sport ont bien du mal à recruter. Dans certains cas, même l'effet JO a été annulé par le pass sanitaire. Guillaume Trutman est le président du PUC, le Paris Université Club. C'est l'un des plus gros clubs sportifs de France.
On sait quand même qu'il y a une réticence de beaucoup de parents à faire vacciner leurs enfants. Et du coup, le faire juste pour pouvoir pratiquer du sport, on comprend que, en fait, ils se posent vraiment la question. Et ce qui devrait comprendre le gouvernement, c'est que le sport est indispensable au développement des valeurs et au développement physique des jeunes, surtout les jeunes en fait. S'il y avait une population qu'il fallait préserver, ce serait eux. Donc c'est certain qu'il faut d'urgence suspendre le pass sanitaire au moins pour eux, pour la pratique du sport, leur permettre de se réinscrire. Parce que là, après, la saison va être lancée, ils se réinscriront pas. C'est pas que cette année, on va perdre un jeune qui ne s'inscrit pas au sport, qui prend pas l'habitude de faire du sport, il ne reprend pas forcément l'année suivante. Vous imaginez les conséquences à long terme sur les jeunes populations. C'est dramatique, en fait.
Le président du PUC au micro RTL d'Isabelle Langer à Mulhouse. Ce n'est pas le pass sanitaire à proprement parler qui pose problème, mais l'obligation vaccinale pour les soignants. 169 d'entre eux ont déjà été suspendus à l'hôpital. Résultat, Samuel Goldschmidt, le plan blanc a été déclenché.
Oui, le contexte sanitaire est critique, dit la direction, et c'est pour assurer la continuité des soins que ce plan blanc est en place. Très concrètement, il s'agit de gérer la pénurie tout en essayant de préserver les soins urgents. Mais le Covid n'est que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de l'épuisement pour la déléguée FO Christine Arquet.
Ce problème de personnel qui n'est pas vacciné ou qui refuse la vaccination vient juste se rajouter au problème de l'absentéisme qui existait déjà avant. Nous avons des équipes qui ont fait face avec énormément de courage et ont sacrifié beaucoup de choses. Ce sont des équipes qui sont fatiguées et malheureusement, c'est vrai que le problème de personnel, il est récurrent dans tous les hôpitaux et en particulier pour nous sur le centre hospitalier.
Pour les patients qui sortent des urgences ce matin, ça ne se ressent pas encore trop.
Là, il est 11h30, on a fait des radios, on est passé chez le médecin et tout, ça s'est super bien passé. Je pense qu'il y a des soignants qui manquent, ça c'est sûr, mais le ressenti, je veux dire, à l'hôpital n'est pas de tel.
C'est clairement le refus vaccinal qui provoque cette situation et hors micro, cela met en colère des soignants qui, eux, sont vaccinés et ont du mal à comprendre comment le discours anti-vax a pu infuser à ce point dans l'hôpital qui a connu le pire de la première vague.
Samuel Goldschmidt en direct de l'hôpital de Mulhouse pour RTL. En Nouvelle-Calédonie, le pic épidémique n'est toujours pas atteint. 16 décès au cours de ces 24 dernières heures. C'est le plus lourd bilan enregistré là-bas depuis le début de cette crise sanitaire.
C'est dans ce contexte qu'est présenté le budget pour 2022.
Un budget éminemment politique, à 200 jours maintenant du premier tour de la présidentielle. On a beaucoup entendu l'opposition ces derniers jours qui accuse Emmanuel Macron de cramer la caisse. C'est notamment l'expression utilisée par Valérie Pécresse. Ce matin, le Haut Conseil des finances publiques évoque lui un budget incomplet. Bonjour Anaïs Bouissou.
Bonjour.
Bruno Le Maire, le ministre, s'est défendu ce matin. Et pas qu'un peu, si j'ose dire.
Oui, regard vif, voix ferme derrière son pupitre. Bruno Le Maire donne le ton dès le début de la présentation du budget.
Nous n'avons donc de leçons à recevoir de personne.
De personne, comprenez, ni des oppositions politiques, ni du Haut Conseil des Finances publiques, dont le ministre a reproché les bavardages par presse interposée. Bruno Le Maire a répondu aux critiques point par point.
Nous aurions, depuis le début de la rentrée, cramé la caisse, laissé filer les déficits, pratiqué la politique du chéquier. Mensonge. Nous vous avons dit en juillet qu'il y aurait environ 11 milliards d'euros de dépenses de l'État supplémentaires. Toutes les dépenses annoncées par le président de la République et par le Premier ministre ne font que décliner ces 11 milliards d'euros.
Reste que deux gros budgets manquent encore à l'appel, un grand plan d'investissement et pour les jeunes un revenu pour s'insérer sur le marché du travail. Un texte à trous, ce n'est absolument pas un problème pour Bruno Le Maire qui explique qu'on prend du temps pour faire bien. Mais non content de se défendre, le ministre a aussi attaqué tout le monde, à droite comme à gauche.
L'irresponsabilité budgétaire, elle est bien du côté des oppositions et la responsabilité budgétaire, elle est bien du côté de la majorité et du côté du président de la République.
Voilà, autant vous dire que ce matin, la présentation du budget n'était qu'un entraînement, un amuse-bouche avant des débats parlementaires qui promettent d'être fleuris tout l'automne.
Effectivement. Merci beaucoup Anaïs Bouissou du service économie de RTL. À Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen, un petit garçon de 5 ans est mort hier soir, mort après avoir été percuté par une voiture. L'automobiliste a pris la fuite, Hortense Crépin.
Oui, ce matin, tous les habitants du quartier du Château sont effondrés. Aïché vit ici avec ses deux enfants et elle a entendu les secours arriver hier.
J'ai entendu la famille tout en bas en train de pleurer, crier. Et ça m'a fait beaucoup de peine parce que je me suis mise à leur place. C'est très très dur. Je suis partie au marché, tout le monde parle de ça. C'est horrible en fait. Ouais.
À côté d'elle, des aires de jeu et un peu plus loin, un parc. C'est de ce parc que rentrait le petit Hassan hier vers 20h30 avec son père. Ils sont en visite chez sa grand-mère. Le feu du passage piéton passe au vert, mais le garçon est percuté par une voiture qui prend la fuite. Il va mourir peu de temps après. Et ce n'est pas la première fois qu'un accident se produit au niveau de ce feu. Lazare est éducateur spécialisé dans le quartier.
Il est souvent donc grillé, les voitures passent au rouge. Puis c'est, je vous dis, c'est pas la première fois. Là, je vous parle d'un accident il y a 3-4 ans, il y a eu encore d'autres accidents. Mais tout le monde est alerté hein, par rapport à ce carrefour. Hein. Il n'y a rien qui change.
La famille du petit garçon, arrivée de Syrie il y a quelques années, est venue ce matin et se recueillit en ce moment, tout près de l'endroit où se sont produits les faits.
Hortense Crépin à Saint-Étienne-du-Rouvray pour RTL. Il y a du foot ce soir, 7e journée de Ligue 1. 5 matchs à 19h, 5 à 21h. Metz reçoit le PSG, mais ce sera sans Messi, blessé au genou. Blessure diplomatique après sa sortie ultra commentée ce week-end au réel problème. Le club, en tout cas, évoque des contusions osseuses, eu des signes de contusions osseuses. Lens, de son côté, accueille Strasbourg, un match à huis clos après les incidents lors de la rencontre face à Lille. Écoutez, Franck Hez, c'est l'entraîneur du RC Lens.
C'est une grande déception de ne pas compter sur notre public. C'était tellement chouette que de ne pas les avoir alors qu'on ne les a pas eus déjà pendant un an, plus d'un an. Et c'est une déception, voilà. C'est une déception pour les joueurs, c'est une déception pour moi, même si on pouvait certainement s'y attendre. Mais le public qui était là pour passer un très beau moment. Ils ont passé pour la plupart un très bon moment, mais pas tous. On va faire sans eux. Après, le terrain, c'est un lieu qui doit être sacralisé. Le terrain, c'est pour les acteurs, c'est pour les joueurs, les arbitres. Et donc, à partir du moment où je dis que c'est un lieu qui doit être sacralisé, ça veut tout dire.
Franck Hez, l'entraîneur du RC Lens, en conférence de presse hier, 7e journée de Ligue 1 qui sera bien sûr à vivre en fil rouge hein, dès 19h sur RTL et toute la soirée.
Premier sujet du jour, le pass sanitaire. Virginie Garin est avec nous et on va vous dire notamment pourquoi les élus locaux plaident pour un maintien des mesures. A tout de suite.
RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Stop ou encore pour le pass sanitaire.
Faut-il maintenir l'intégralité des contraintes liées au pass sanitaire?
Va-t-on vers un assouplissement du pass sanitaire?
Assouplir ou pas le pass sanitaire? La question, vous le disiez, était ce matin au cœur des discussions à l'Élysée. Et c'est donc le premier débat d'RTL Midi. Un nouveau conseil de défense a eu lieu tout à l'heure. Ça va bouger, nous disait il y a un instant William Galibert, hein, qui est sur place pour RTL. Des annonces sans doute dans les deux prochaines heures. Bonjour Virginie Garin.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors vous avez pour RTL mené l'enquête auprès des présidents des conseils départementaux, puisqu'on évoque un possible allègement des mesures au niveau local. Bilan, si vous me permettez, ils ne sont pas très très chauds. Hein.
Voilà, alors j'ai appelé ou laissé des messages à 38 présidentes ou présidents de départements classés en vert, c'est-à-dire qui ont un taux d'incidence inférieur à 50. Pour l'instant, 21 m'ont répondu et 8 seulement m'ont dit qu'ils souhaitaient un allègement des mesures. Et encore, aucun ne demande la suppression du pass sanitaire. Ils veulent juste un assouplissement. Par exemple, la présidente du Maine-et-Loire se demande si c'est encore très utile en terrasse pour boire un café. Le président de la Somme veut, lui, un allègement à condition qu'on intensifie la vaccination des personnes isolées ou fragiles. Demande de souplesse aussi dans la Nièvre, la Saône-et-Loire, l'Orne, la Charente-Maritime, mais avec prudence. Et tous les autres départements m'ont dit soit qu'ils n'avaient rien à dire, on sent que le sujet est sensible, soit qu'il était encore beaucoup trop tôt pour lever les mesures.
Ce qui est intéressant avec le pass sanitaire, c'est que ceux qui souhaiteraient l'alléger, c'est ceux par définition qui ne sont pas vaccinés. Parce que ceux qui sont vaccinés, je parle des clients qui entrent dans les restaurants ou dans les bars, ça ne change pas grand-chose pour eux si on allège le
oui, c'est pas compliqué de montrer son pass sanitaire. On a vu que ça se passait très bien, effectivement.
Et ça rejoint effectivement le mini-sondage que nous avons fait où
61% des personnes, en tout cas, qui ont répondu sur RTL.fr disent non, il n'est pas besoin d'alléger ces mesures. Comment vous expliquez une telle réticence? Que disent-ils, ces présidents de département?
Il y a un argument qui revient souvent. Attendons que le taux de vaccination soit plus élevé, notamment chez les jeunes. Dans la Meuse, il est inférieur à la moyenne nationale. Et le président du département, Jérôme Dumont, estime qu'il est prématuré d'alléger les mesures. Je vous propose de l'écouter.
Je pense qu'il faut attendre encore un petit peu, un mois ou deux, même si le taux d'incidence, nous, est passé en dessous de 50 et le taux de vaccination n'est pas suffisamment élevé à mon sens et il est surtout insuffisant pour les jeunes générations, les 12-30 ans. Pour l'instant, moi, je pense qu'il faut que le message ne soit pas perturbé pour ceux qui hésitent encore à se faire vacciner.
Alors, autre argument, le message justement, les élus constatent déjà sur le terrain une certaine tendance au relâchement, notamment avec le port du masque. Donc annoncer solennellement la levée du pass sanitaire pourrait envoyer un mauvais signal et risquer un relâchement encore plus grand. Et puis, autre argument intéressant, on va vers l'hiver. Donc, les médecins, vous savez, redoutent des épidémies plus importantes que d'habitude, de gastro-entérite, parce qu'on se lave moins les mains, de bronchiolite ou de grippe, parce qu'on est moins immunisé. Il n'y a pas eu d'épidémie l'hiver dernier. Donc, en maintenant les gestes barrières, on va peut-être freiner le développement de ces épidémies qui peuvent être aussi dangereuses. Une épidémie de grippe un hiver peut faire jusqu'à 15 000 décès.
15 000 décès, l'épidémie de grippe, c'est pas rien, effectivement.
Ce qui pourrait être intelligent, c'est de lever le pass sanitaire pour les 12-18 ans dans les départements où le taux d'incidence est en dessous de 50. Ce qui fait que, comme il devait entrer le 30 septembre en action, dans certains départements, il ne serait peut-être jamais entré avec ce système-là. C'est peut-être ce qui sera décidé tout à l'heure.
Et c'était une demande, effectivement, de certains présidents de conseils départementaux.
Et des clubs de sport qu'on a entendus tout à l'heure. Juste d'un point de vue scientifique, Virginie, sanitaire, est-ce qu'on a raison d'avoir peur ?
Alors, c'est vrai que le taux de vaccination est désormais élevé, 86% en France, que le nombre de nouveaux cas est en forte baisse, y compris chez les enfants. Alors après, si on regarde dans le monde, l'épidémie continue de progresser, il faut être prudent. Alors, la tendance est globalement encourageante, mais l'hiver arrive, il est propice au développement du virus, les gens se retrouvent enfermés, l'immunité collective n'est pas atteinte, le virus...
Mais elle n'existe pas, paraît-il.
Pardon ?
Elle est impossible à avoir, cette immunité collective. Elle n'arrivera jamais.
Alors justement,
moi, c'est ce que j'entends depuis des mois.
Je termine, Pascal. Le fait qu'il y ait des gens qui ne sont pas vaccinés, ce sont un peu des nids à nouveaux variants. C'est-à-dire que ces gens-là peuvent avoir des formes graves du virus. Et là, il y a un risque d'avoir un nouveau variant qui serait plus résistant au vaccin. Et donc, c'est pour ça que les scientifiques disent qu'il faut être prudent. Il faut éviter de relancer l'épidémie, et notamment pour éviter ce nouveau variant.
Merci beaucoup Virginie.
C'était Gara. En tout cas ce que disait M. Fontanet ce matin, membre du conseil scientifique dans Le Parisien. Il est 12h49, merci Virginie Garin. Nous allons enchaîner avec un deuxième sujet qui va nous passionner. La campagne présidentielle, est-ce qu'elle est radicale ? On est frappé effectivement du ton, de la couleur de ce début de campagne. À tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole. 50 centimes. RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Et à 200 jours, et oui, 200 jours maintenant du premier tour de la présidentielle, coup de projecteur ce midi sur cette campagne. Immigration, écologie, sécurité, pouvoir d'achat, les sujets ne manquent pas. Mais on a tous l'impression que le débat est en train de se radicaliser, en tout cas sur certaines questions, vraies ou faux. On a choisi ce midi de poser la question à Jean-Yves Camus. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être en direct avec nous dans RTL Midi. Vous êtes politologue, co-directeur de l'Observatoire des radicalités politiques. Alors ce débat, il mériterait sans doute des heures et des heures de discussion, mais on a quand même choisi de s'y arrêter. Est-ce que vous diriez que le ton, que le débat se radicalise ?
Si on regarde sur le temps long, l'élection présidentielle a des fois été beaucoup plus violente qu'aujourd'hui. Moi, j'ai voté pour la première fois en 1981. Et cette élection présidentielle, qui a vu la victoire de la gauche, avec à l'époque le Parti communiste associé à la candidature de François Mitterrand, a été très violente parce qu'on nous promettait le passage au communisme. On nous promettait les chars soviétiques, place de la Concorde. Donc, il faut raison garder. Aujourd'hui, on a une campagne où certains sujets, l'immigration, la sécurité, l'assimilation, l'islam, sont vus par certains candidats de manière assez radicale. On a une gauche radicale qui s'exprime également sur les sujets économiques et sociaux en demandant de la rupture. Ça existe depuis assez longtemps d'ailleurs. Mais on a une campagne qui reste tout de même, pour l'instant, on va dire, dans le cadre d'une expression démocratique parfaitement normale.
Alors j'ai quelques petits exemples à vous soumettre. Sandrine Rousseau souhaite par exemple que la France abandonne l'énergie nucléaire. C'est radical. Xavier Bertrand a parlé de risque de guerre civile. C'est radical. Jean-Luc Mélenchon rêve d'abolir la Ve République. C'est radical. Éric Zemmour, on ne sait pas s'il est candidat ou pas, mais il veut que les petits Français s'appellent Louis pour les garçons ou Marie pour les filles. C'est radical. Donc, et Anne Hidalgo a proposé hier 110 km/h sur l'autoroute. C'est radical aussi. Et on a le sentiment que la France a besoin d'apaisement et on a des leaders qui proposent des choses radicales. Et j'y vois un paradoxe.
Pas nécessairement, parce que les sujets que vous avez abordés sont des sujets de débat parfois assez anciens. Le débat sur la sortie du nucléaire, on l'a maintenant en France depuis 20 ou 30 ans. Donc c'est
personne
un débat
n'imagine quand même qu'on sorte complètement à 100% du nucléaire.
Ah bah écoutez, si jamais vous écoutez une bonne partie des écologistes, il en est quand même question depuis plusieurs dizaines d'années. Donc c'est un
d'une
débat
partie
qui est maintenant...
des écologistes, comme Sandrine Rousseau. Je suis pas sûr que Yannick Jadot soit sur cette ligne-là.
Non, moi non plus. Mais c'est un débat, en tout cas, qui est parfaitement inscrit dans l'ensemble du débat politique français. Et la solution proposée par Sandrine Rousseau est effectivement radicale. La question, c'est de savoir si c'est un signe de radicalité politique, au sens où cela dresserait les uns contre les autres dans une forme de violence, les Français.
Qui ont besoin d'apaisement, et c'était le sens de ma question aussi, cette opposition apaisement-radicalité.
Ils ont besoin d'apaisement, mais tout le monde convient que sur un certain nombre de sujets, on ne peut pas continuer à rester dans l'entre-deux et qu'à un moment donné, il y a des décisions à prendre. Or, une décision, quand elle renverse une décision qui a déjà été prise, ou quand une loi vient en remplacer une autre qui prend le contre-pied de la précédente, on a nécessairement un changement radical. La question, c'est de savoir, petit 1, s'il est justifié, petit 2, s'il emporte l'adhésion de la majorité des Français.
Jean-Yves Camus, j'imagine que les médias ont un rôle dans tout ça. On a régulièrement des accusations qui nous disent un tel ou un tel, c'est un peu vous qui le poussez.
Alors, les médias ne créent rien. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que les médias rapportent ce qui se passe, sont en fait des capteurs de l'actualité, commentent l'actualité, mais je prends un exemple. On a dit il y a maintenant 30 ans que les médias avaient créé le Front National. Non, les médias n'ont pas créé le Front National. Ils ont à un moment donné peut-être un petit coup de booster à quelqu'un qui s'appelait Jean-Marie Le Pen. Mais enfin, quand en 1984, le FN remporte pour la première fois 10% des voix aux élections européennes, c'est pas uniquement à cause des médias. C'est parce qu'il y a rencontre entre une offre politique et une demande politique. Et c'est toujours comme ça que ça se passe. Ensuite, il y a le traitement, effectivement, de tout cela, qui peut influer dans un sens ou dans un autre. Mais les médias ne créent pas un phénomène politique, en tout cas pas sur la longue période.
Toute dernière question, Jean-Yves Camus, elle ne vous inquiète pas, cette campagne ?
Cette campagne, elle va sur les questions, en tout cas, liées à l'immigration et à l'identité. Qu'Éric Zemmour soit candidat ou non, d'ailleurs, parce que je pense que s'il ne l'est pas, il interviendra quand même dans la campagne, être assez clivante, oui, parce qu'Éric Zemmour place la barre très haut. Il va forcer à chacune de ses déclarations, notamment si ce sont des déclarations de candidats, les candidats de LR, le ou les candidats de LR et Marine Le Pen, à se positionner par rapport à chacune de ces déclarations. À gauche, c'est beaucoup plus simple, on est en désaccord avec lui à 100%. Mais en tout cas, à droite, et pour la candidate du Rassemblement National, ce sera une injonction permanente de se positionner par rapport à celui qui pourrait donner en partie le ton de cette campagne.
Bah merci Monsieur Camus, c'était une gageure, comme l'avait dit Amandine. C'est un sujet qui réclamerait sans doute beaucoup plus de minutes de débat, mais ce focus, cet éclairage était intéressant. 12h57, le rappel des titres, les auditeurs ensuite jusqu'à 14h30.
RTL Midi. Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.